bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Merci Virginie Pirodon, on vous retrouve tout à l'heure à midi pour d'autres infos. Soyez bienvenus avec Leïla Kadobudadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Oh, bonjour.
Albert Albon.
Bonjour.
Alexis Le Rossignol. Frédéric Sigris.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Passureau.
Bonjour.
Et nos invités sont Guillaume Gouix et Guillaume Desclous.
Bonjour.
Merci les Guillaume de venir nous présenter votre film Les Confins du Monde qui sortira bientôt. D'abord, comment allez-vous? Première question. Guillaume Gouix, vous allez bien?
Vous.
C'est vrai?
Ça va, vous?
C'est vrai que personne ne demande merci.
Ah oui, non, je sais pas, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
Mais ça se voit, vous êtes resplendissant.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, eux, ils s'en foutent. Merci, Guillaume. Non, mais c'est vrai. Les invités, on leur demande comment ils vont, rarement ils
disent
bien.
On te le demande avant l'antenne.
Toi, t'es tombé ou quoi de ta chaise?
Ouais, je sais pas, je suis puni ce matin.
On est ravis de vous accueillir. On va parler, alors, pardon, Guillaume Niclou.
Ouais.
C'est votre combienième film, Guillaume?
Le 16e ou le 17e?
Vous comptez plus, genre?
Bah on me dit que c'est le 16e ou le 17e.
D'accord.
Donc je crois tout le monde.
Renagui, combien d'émissions?
On va...
On retourne toutes les questions aujourd'hui.
Elle va être longue cette émission. Elle va être longue.
Elle va être très très longue.
Sinon, comment ça va, Renagui?
Nous sommes en Indochine, nous sommes en 1945, nous sommes après un massacre. Les images sont à la fois extrêmement crues comme des images de guerre, dans des situations extrêmement violentes, et elles sont aussi extrêmement belles pour le paysage, pour les êtres humains, pour la souffrance humaine. C'est une histoire d'une vengeance, mais aussi une histoire d'amour. On va en parler tous ensemble, mais d'abord des questions concernant nos deux Guillaume Gouix et Guillaume Niclux. Pour savoir si vous les connaissez bien, si vous avez bien bossé vos dossiers. On va commencer par Guillaume Gouix. Qu'est-ce qui rapproche Guillaume de l'un des membres de l'équipe de la bande originale?
Léo Mur.
La violence.
Exactement.
Ah oui, Albert.
Exactement. Ouais, vous êtes très proches tous les deux. Bah, il faut expliquer, Albert.
Bah, Léo Mur, c'est un film dans lequel Guillaume avait un rôle tout à fait remarquable.
Christian Faure.
De Christian Faure, oui.
Ouais.
Passait dans un...
T'as écrit le scénar?
Oui, j'ai écrit le scénar.
Ah, voilà,
la fin. C'est la réponse, je suis là. Sinon, ça va durer longtemps.
Ouais, le lien, voilà. C'est bon.
Le dossier est bouclé.
Ah, faut pas lui donner la parole.
Et il était formidable.
C'était il y a 12 ans.
Il repasse régulièrement à la télé. C'est un film tout à fait remarquable.
Quand il a envie de se divertir, avec qui Guillaume Niclou va-t-il déjeuner?
Welbeck.
Exactement.
Pour rire?
Oui.
Bah oui.
Alors ça, c'est deux phrases, c'est deux mots dans une phrase qui, pour moi, sonnent bizarrement. Welbeck pour rire.
Mais oui, ouais. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Parce qu'il y a l'image publique, il y a évidemment l'essai verbal qu'on extrait souvent dans les propos un peu polémiques. Et puis, il y a la personne humaine avec laquelle, moi, je ris énormément.
Et que vous...
C'est toujours inattendu.
Que
c'est-à-dire une question, une réponse, inattendue. C'est...
Que vous connaissez comment? Depuis quand? Par quel truchement?
Depuis, on se fréquente depuis une petite dizaine d'années, plus régulièrement. Depuis l'affaire Gorgi, où il a interprété le rôle du patron de la DST. Et puis, c'est là qu'est née l'envie de faire l'enlèvement de Michel Welbeck. Et puis là, on poursuit, puisque normalement, on démarre la semaine prochaine le film avec Michel Welbeck et Gérard Depardieu.
D'accord.
C'est une exclue, là, je balance.
C'est formidable, merci pour le scoop. La seule fois où Guillaume Gouix a eu affaire à la police, c'était pourquoi?
Une soirée avec Welbeck.
Non.
Un vol, enfant?
Ouais, exactement. Vol de sucette à Disneyland.
Ah bravo.
Ouais, c'est bien.
Ouais, c'est bien.
C'est chaud.
C'est chaud, ça.
Ouais, t'es dans le game.
On a tous un passif de buter Mickey.
Ouais, tous un passif
de voyoucratie, quoi.
Ouais. Non, mais ouais, j'étais.
Faut pas salam.
Ouais. J'étais en sortie scolaire. Voilà, et j'ai pas pu prendre le bus pour rentrer à Marseille parce que j'ai grandi à Marseille. Et on était en garde à vue, ce qui est absurde pour des sucettes, mais on était en garde à vue avec d'autres élèves. À Paris. On connaissait pas Paris, donc c'est bien, on a
voyagé.
Et c'est les frères Rapetot qui font la garde à vous?
Oh, bien joli. Et vous avez quel âge, pardon?
Bah,
23 ans.
15 ans, je crois.
D'accord.
Bah, vu les prix chez Disney, c'est qui les voleurs?
Chez quel réalisateur Guillaume Niclou a-t-il frappé à la porte pour...
Martin Scorsese.
Presque avoir... Bah, c'est un costaud, en tout cas. Pour avoir des renseignements, pour...
Français?
Passion. Oui.
Besson?
Non.
Il peut pas être sans
Truffaut.
Tout.
Non.
Ouais, je crois que j'ai
mort,
vu.
Mort, vivant.
Kassovitz.
C'était pas l'ex-mari de Sophie Marceau?
Oui.
Zulawski?
Ouais.
Exactement.
Oh.
Ouais. On va donner le point.
Oui, mais je le donne à Leïla. En plus, elle a une chaise qui...
Moi, j'allais dire Cyril Lignac, mais...
Mais non, je suis à l'aise que Nagui.
Mais fais pas de j'ai dit français, enfin polonais, oui, enfin, oui, je sais oui, pas. Enfin, oui, moi, pour moi,
franco-polonais.
Franco-polonais, c'est par... Vous étiez quoi? Vous étiez le jeune élève qui voulait des renseignements?
18 ans, et puis je réalise, en fait, en regardant dans l'annuaire, que ce réalisateur, dont j'admirais les films, Possession, Importance et l'aimer, habite à 30 km de chez moi, donc un ami qui a le permis nous emmène, j'arrive, il y avait encore des cabines téléphoniques, je prends le téléphone, j'appelle, ouais, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux venir? J'ai un livre pour une dédicace. Il dit, oui, viens. J'arrive, on rentre, et là, il avait invité du monde, il débouche une bouteille de vin, on boit une bouteille de vin, et puis finalement, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire, réalisateur? Mais surtout, ne fais jamais ce métier. Mais je pense que c'était calculé de sa part.
Bon, petit... Pourquoi c'était...
Ouais, bah, je pense que c'était une façon de tester, et puis de donner l'envie, et puis d'être un peu contradictoire. Et puis c'est vrai que j'ai toujours pensé à son refus, enfin à cette indication, ne fais jamais ce métier.
Non, mais en tout cas, il faut accueillir un étudiant qui frappe, qui
bien
vient
sûr.
par admiration.
Ouais, ouais. Je les attends toujours. J'attends le moment où on sonnera à ma porte.
Pas dans la
plus cabine. Plus cabine.
Quel autre métier Guillaume Gouix aurait-il aimé faire s'il n'avait pas été comédien?
Mickey.
Dessinateur?
Non.
Danseuse étoile?
Non.
Alors,
stripteaseur?
Non.
Animateur radio?
Non. C'est un peu pareil. Non.
C'est Manuel?
C'est Manuel, oui.
Ébéniste? Cuisinier?
Oui. Bravo. Dans la cuisine, ouais. Ouais. Absolument.
Bah, j'ai une mère italienne, donc j'ai...
Ouais, enfin, ça, ah, c'est bah pas
oui,
forcément.
Mais, ouais, mais elle faisait à manger
comme
tout
des
le
millions
temps,
de personnes.
Je sais pas. Ouais. Comme ça m'a toujours passionné.
Mais vous aimez ça, vous aimez offrir aussi aux autres, parce
ouais,
que la cuisine,
pour les autres,
c'est faire et partager, quoi.
Ouais, ouais. Ouais, l'italienne, c'est un peu ça, c'est cuisiner pour rassembler, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose.
Faire des grandes
tablées.
Des pastas et tout le monde
mais
autour de la table.
Pas que, je sais cuisiner créole aussi. Non, je sais faire pas mal de trucs.
Ça va aller.
Donc, le 5 décembre prochain, mercredi prochain, sortie de ce nouveau long métrage, Les confins du monde, je vais y arriver. Nous sommes en Indochine. Les premières images, à part Gaspard Huyel qui est en train d'accuser le coup, on va dire, les premières images sont celles d'un massacre qui a réellement existé en mars 45. C'est l'image d'un charnier où des soldats français ont été abattus, massacrés, découpés. Et de ce charnier va sortir un rescapé qui est alimenté par un désir de vengeance.
Oui. Bah, c'est en fait le 9 mars 45, les Japonais ont opéré un véritable coup de force en fait dans le nord de l'Indochine lorsqu'ils ont appris que De Gaulle voulait récupérer les colonies. À partir de ce moment-là, ils ont, le même jour, à la même heure, massacré toutes les garnisons françaises, femmes, enfants, soldats. Et il se trouve que ce personnage, interprété par Gaspard, est un survivant et qui va traverser d'une façon assez foudroyante un instant de vie dans lequel il va être confronté à deux obsessions qui sont le désir de vengeance et puis sa passion amoureuse.
Avec Mai, une jeune prostituée qu'il va rencontrer. D'abord, qui va lui offrir une soupe juste pour lui faire plaisir, pour lui faire du bien. Pourquoi elle m'offre ça alors que je n'ai pas l'argent et que j'aimerais bien manger. Alors c'est très bizarre parce que il est à la fois en quête de vengeance et dans une guerre en Indochine face aux Viet, face à des traîtres et à la fois il est sauvé par une enfant qui le trouve dans la jungle, c'est-à-dire les Viet incarnent, ou les Indochinois incarnent à la fois le bien et le mal pour lui dans sa vie.
Oui, mais
et l'amour.
C'est ce qui est intéressant, c'est de savoir que de toute façon, il y a aucune... Enfin, toutes les raisons sont bonnes pour cette cause qu'est l'indépendance et la liberté, mais il ne s'agit pas d'en livrer une vision édulcorée. Donc, et surtout le rapport manichéen qui est assez
c'est
faussé souvent.
Il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de
l'autre.
Il y a
une zone de gris au milieu, ouais. Même si le but...
Il n'y a pas de racisme évidemment... de la part des soldats qui ne partent pas du principe que...
Non,
tout,
non,
non.
Non, non, c'est
tout
juste...
Tout asiatique est un danger.
De ne pas tomber dans le panneau de livrer une vision trop angélique et manichéenne de la situation.
Il y a des personnages comme celui qu'incarne Gérard Depardieu, justement, qui lui considère que c'est pas sa guerre, qu'il n'est ni d'un côté ni de l'autre, et tout d'un coup qui donne aussi une autre vision de la guerre et du conflit.
Oui, qui essaie de lui ouvrir en tout cas une fenêtre un peu différente et d'aérer sa vision obsessionnelle, en tout cas du conflit.
Alors vous, Guillaume Gouix, vous êtes un soldat. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que Gaspard Ulliel, sortant du charnier, sauvé par une enfant puis une famille indochinoise, va reprendre des forces, va reprendre goût à la vie, mais surtout avec ce petit goût de vengeance, ce goût amer de vengeance, il veut réintégrer les troupes. Il va retourner dans une compagnie, et c'est là où il va vous rencontrer et où il va y avoir un rapport un peu de coq entre vous, par
moment. De coq, enfin, c'est Cavagna, c'est ça, mais c'est un jeune homme qui se cache derrière sa virilité exacerbée, il est un peu excessif là-dedans, un peu démonstratif même, et puis quand l'amitié arrive et quand on gratte un peu, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, et c'est juste des gens trop jeunes pour être là, quoi, et qui ont peur de l'horreur, et qui savent pas comment la vivre, l'attente, cette horreur permanente, sans savoir vraiment qui est l'ennemi. Les branlettes dans les chambrées, les trucs, ils savent pas comment gérer ça. Tout est un peu cauchemardesque. Et voilà, on se rend compte qu'il est trop jeune pour être là.
Et justement, l'ennemi, celui que le personnage de Gaspard Ulliel poursuit, on le voit jamais.
Vaubine, c'est ça?
Vaubinienne, oui.
Vaubinienne. Et finalement, il y a une phrase importante, c'est l'ennemi intérieur. Et donc, chacun des personnages a son traumatisme, a son mal qu'il cherche à transcender d'une certaine façon. Mais finalement, c'est aussi le principe de cette guerre d'Indochine. C'est la difficulté à voir l'ennemi. C'est les difficultés qu'ont rencontrées les troupes françaises pendant ce conflit-là. C'est de se dire qu'il est là, il est partout, il est nulle part en même temps.
Oui, puis c'est assez curieux parce que c'est une guerre finalement extrêmement organique. Ouais. Parce que les moyens dans cette guérilla étaient du combat du corps à corps et pourtant on ne voyait pas l'ennemi. Mmh. L'ennemi était là, il attaquait les queues de colonne, c'était très 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 précis, très chirurgical.
Ça c'est la nature.
Et ça les rendait dingues.
C'est la nature du paysage et de la géographie
qui
fait ça.
Aussi.
Il y a des pièges partout, il y a aussi, des tunnels en permanence, on est dans une espèce de...
La France est arrivée aussi avec des vieux repères de guerre, c'est-à-dire on est comme un code d'honneur, une espèce d'organisation où on éteint la lumière le soir et puis on fait un break. Non, pas du tout, la guerre c'est pas ça.
Ouais.
Pour les gens qui se battent depuis 2000 ans contre la Chine, ils sont nés déjà avec cette possibilité d'être attaqué jour et nuit et de se défendre quoi qu'il arrive.
Mais c'est dit dans le film que les Français sont trop gentils.
Oui.
C'est dit par.
Et c'est ce que comprend le héros, c'est ce que comprend Gaspard Ulliel, Robert Tassen pour ce qui est du personnage, et il comprend que ce n'est pas avec la manière de combattre française qu'il va pouvoir retrouver l'ennemi, donc il décide de monter un commando.
Oui, un commando et de s'inspirer de la façon dont ils se battent, dont ils opèrent, et donc en plus de collaborer avec d'anciens prisonniers, comme les prisonniers sont affamés, donc c'est de les convaincre de participer. De les convaincre aussi sur le plan idéologique.
En prenant le risque d'avoir des traîtres avec lui.
Absolument, ce qui s'est passé d'ailleurs. Et ce qu'était l'attente mortifère en fait, où on sentait que les soldats n'étaient jamais autant vivants qu'en étant aussi proches de la mort. C'est ça qui est fascinant en fait.
Et alors vous, comme ce sont des minots, comme le dit Guillaume Gouix, vous rajoutez leur sexualité, leur amour, l'onanisme, la solitude, l'homosexualité, tout ça fait partie de la vie...
Oui, parce que la vie, c'est le désir.
Quotidienne.
Donc le désir, qu'est-ce que c'est? Difficile à rationaliser. Donc c'est juste l'instinct. L'instinct et l'intensité. C'est-à-dire à quel moment on se sent le plus vivant. Et manifestement, c'est au moment où on sent la mort aussi la plus imminente que ces instincts-là prennent le dessus. Et le désir, c'est quelque chose de très très stimulant en même temps. Mais on est confronté aussi à des désirs qui sont à la fois contradictoires, mais qui sont les deux versants de la même médaille. C'est-à-dire la vengeance et la passion amoureuse. Donc tout ça est très conflictuel.
Et le monde, alors à filmer ensuite, il y a la beauté des paysages, il y a l'horreur de la guerre et de ses trophées, puisque il y a des charniers, il y a des corps dépecés, découpés, des têtes accrochées.
Non, ah oui, quand même.
Ça va loin.
Ah oui, ça va loin. Mais je pense que c'est aussi la façon de le traiter, c'est-à-dire que sans utiliser forcément l'alibi du montage, le fait de laisser les plans peut-être plus d'une façon plus statique, de les laisser vivre. On redonne une espèce de véracité qui est très formaliste et qui est très cinématographique aussi, mais sur la temporalité qui rend évidemment les événements qu'on regarde peut-être plus prégnants et plus intenses. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça qui nous donne, qui nous place dans une vision peut-être plus concrète.
Et tout est vrai. Vous êtes documenté, vous êtes rapproché le plus possible. Vous avez
tout est vrai, tout est faux.
Oui, voilà.
Parce que le cinéma, c'est ça, c'est la qualité du mensonge. C'est de quelle façon.
À partir du moment où on raconte une histoire.
Oui, de quelle façon on va mentir le plus sincèrement possible. Voilà, ouais. C'est ça qui m'intéresse.
Ah, c'est joli. Ça, c'est le combat de Nagui aussi.
Ouais. Les confins du monde avec Gaspard Ulliel, avec Gérard Depardieu, Guillaume Guix évidemment qui est notre invité, sortira ce mercredi 5 décembre. Maréchal, ouais. Ça va être un succès.
Bah écoutez, à la question « ça va avoir du succès », je réponds affirmatif. Je ne reviendrai pas sur la prestation remarquable de Monsieur Guix Guillaume, dont je connais les états de service impeccables depuis le film « Admirable et au mur », dont le scénario formidable fut signé par mon ami incomparable Albert Algout. Quel talent celui-là.
En toute objectivité, oui.
Bien
toute
sûr.
Modestie.
Je ne reviendrai pas, comme vous venez de le faire, mon cher Nagui, sur l'excellence de la réalisation de Nick Lux Guillaume, un gars qui en a dans le froc d'avoir été tourné en Indo, la beauté des paysages, l'horreur de la guerre et la sexualité et l'onanisme. En tout cas, si ce film est sûr de connaître un grand succès, c'est auprès de moi. Je vais le revoir. Et le revoir. Et le revoir, Nagui. Et pourquoi vais-je le revoir? Et le revoir. Parce que les marches épuisantes dans une jungle hostile et moite, les villes grouillantes de viettes inquiétants, les maisons de plaisir, le perroquet vert où j'ai laissé des plumes, les pièges en bambou, oui, les hôtesses à spécialité inouïe, les pipes à opium, les cages en bambou, les pièges, c'est exactement ce que j'ai vécu, Nagui, au Tonkin. Oh, Tonkin.
Non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps.
Alors, vous voyez, quand c'est vous, monsieur Nick Lux, qui me racontez l'Indo, Nagui est là, s'extasier, et que je te mouille la compresse, et que je te dégouline de compliments mielleux. Mais quand c'est moi qui évoque l'Indo, que j'ai vécu au plus profond de la chair, tout de suite, ce ne sont que l'Asie, Colibet, plus cruel encore que les bambous pointus que les gérés des Viettes, la belle et sadique Susie Wan m'enfonçait sous les ongles. Et c'était même pas pour me faire parler. Mais surtout, ce qui m'a ramené, monsieur Nick Lux, trois quarts de siècle en arrière, comme si c'était hier, grâce à votre film, c'est les sangsues.
Ah oui.
C'était le 17 juin 1954, non. Après la défaite de Dien Bien Phu, mes légionnaires et moi avions été déportés au camp de Gang Bang Phoc. N'arriviez pas ! Où nous croupissions nus. Et entassé dans des cages en bambou. Ouvrez la cage.
Non, c'était pas là. C'était
immergé dans les eaux somas du fleuve marron. Et tous les soirs, la terrible Susie Wan, toujours elle, venait y déverser un seau grouillant de sangsues grosses comme des rouleaux de printemps. Des sangsues pires que celles de votre film, monsieur Nick Lux, dressées à nous vampiriser le fondement. Atroce. Depuis, je ne peux pas rester assis plus de 3 minutes. Je vais donc devoir vous quitter.
Ah, enfin une bonne nouvelle. Merci à
vous. Bonne émission.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Au casting donc du film, Gaspard Ulliel, Guillaume Guix, Lang Tae Tran, Gérard Depardieu, Jonathan Cousinier, Kevin Johnson, Anthony Pagliotti et François Négret, entre autres, parce qu'il y a énormément de comédiens, de figurants. Ça a été difficile de tourner ce film sur place ?
L'infrastructure à installer, oui, un petit peu. Oui, ça a pris du temps, parce que le Vietnam n'était plus habitué au tournage. Mm-hmm. Donc il a fallu, essayer de se laisser d'abord intégrer dans ce climat qui est quand même assez vampirisant. Donc il faut surtout pas résister et puis accepter l'idée que c'est aussi le décor, le climat qui va nous inspirer et nous mettre dans une ambiance un peu particulière.
Comment êtes-vous accueilli d'ailleurs par le Vietnam quel regard eux ils ont sur ce moment de leur histoire?
Très bien, parce qu'ils ont senti d'abord que le scénario était passé au comité de censure, qu'il était tout à fait adoubé par le gouvernement, même si on avait quelqu'un qui était là sur le plateau en permanence pour vérifier qu'on faisait pas n'importe quoi.
Ah ouais, quand même.
Ils ont été assez heureux de comprendre que c'était d'abord un film anticolonialiste, profondément basé sur la liberté, l'indépendance, et puis qu'à l'intérieur, il y avait cette zone de gris dans laquelle on allait évoluer. Voilà. Donc c'était plutôt très, très bon accueil.
Guillaume, vous avez vécu ce tournage comme une épreuve physique aussi, parce que
vous êtes tout maigre, vous êtes tout sec.
Ouais, on avait perdu du poids à la demande Monsieur Niclou.
Parce que vous et Gaspard Ulliel, la voir, on vous voit un moment nu, hein, on peut le dire. Vous êtes particulièrement
pas
sec.
Pas qu'à un moment.
Non, oui, non mais un moment particulier, on vous voit bien.
Oui, un moment, un plan, on voit bien apparemment. Ouais.
La douche.
Mais c'est ça. C'est ça. Il prenait des douches de temps en temps.
Ils ont le droit.
Mais oui, il mangeait surtout du riz. Ouais. Et il faisait très chaud, très moite, donc ils n'étaient pas très gros. Mais oui, je l'ai vécu comme... Enfin, je sais pas, en même temps, c'était le contexte, c'était dur, mais ça aurait été moins bien que ce soit moins dur, en fait. C'était, voilà, c'était le terrain de jeu idéal, quoi.
Donc, on était un peu fatigués. Vous parlez toujours des
douches, là ? Non, pas des douches, là, de la jungle, de la moiteur, des bêtes, puis on s'acclimate à tout. Les premiers jours, on avait des anti-tout avec Gaspard, on était un peu les Parisiens. On
avait anti-moustique,
anti-humide, anti-soleil, on avait anti-tout, je crois. On s'asseyait sur des bouts de tissu. Puis à la fin, on était allongés, torse nu, dans les herbes.
Vaille que pourra. Enfin,
ouais, donc si, voilà, c'était un terrain de jeu idéal, mais oui, âpre, mais pour le film, c'était bon.
Le bout d'histoire, on se rend compte que finalement, c'est de l'amour qui est le plus important dans la narration, voire le deuil.
Mm-hmm. Oui, enfin, le véritable aussi, sujet. Le film propose une fin, ce qu'on appelle ouverte, où le spectateur peut aussi lui-même se laisser inspirer par la suite du film. Ouais. Enfin, propose de ne pas tomber, en tout cas, dans une compréhension universelle et qui fermerait toutes les portes. Oui, c'est de permettre aussi au spectateur d'imaginer quelque chose qui sera un peu différent que celui de son voisin.
Et je me demandais, le personnage de Gérard Depardieu, dans les récents films où vous l'avez fait tourner, à chaque fois, on a une sorte de motif comme ça qui revient, la perte, la perte de l'enfant, qui donne lieu à une scène extrêmement émouvante dans ce film. Mais c'était aussi le cas dans...
Il y a forcément une autre résonance pour lui. Oui.
Voilà, dans Valley of Love aussi, c'était aussi la recherche...
Oui, il y a sans doute quelque chose qu'on tisse, Gérard et moi, qui tient du deuil, de la perte du fils, mais qui dépasse un petit peu ça et qui ouvre un champ peut-être plus mystique ou plus...
Pardon, son personnage a tous les deuils. Il a le deuil de ses propres parents, le deuil de son épouse, le deuil de son fils. Il représente vraiment l'homme seul abandonné par tous les siens.
Finalement, c'est ce qui dicte aussi notre vie à tous. Ouais. C'est que s'il n'y avait pas cette notion de deuil, on ne vivrait pas de la même manière. Et que la vie nous y amène, malgré tout. Et c'est de quelle façon, c'est le chemin qui est intéressant.
Mais c'est conscient ou pas de vouloir tisser cette relation-là à travers les films ? Ça dépasse les films.
Non, c'est pas du tout conscient. Comme la plupart des films que je fais, c'est-à-dire que on part de quelque chose qui est beaucoup plus spontané et pas du tout réfléchi. C'est plus le ventre qui dicte sa loi.
À propos du ventre, il est temps de retrouver Alexis Le Rossignol.
Quel rapport ?
Le frugalisme. Vous me dites que le frugalisme est à la mode.
Tout à fait, Nagui.
Ouais. Merci.
Oui, on ne le dira jamais assez.
Ça, c'est un lancement.
Laisse-le.
Ouais, non, mais ça m'a surpris. Comme toujours, en fait. Hein. Oui, on ne le dira jamais assez. D'ailleurs, on ne le dit même pas du tout. Mais effectivement, le frugalisme, c'est tendance. Depuis toujours, les idéologies font la pluie et le beau temps. Par ailleurs, parmi les idéologies qui ont marqué l'histoire contemporaine, on a eu pêle-mêle des idéologies variées, qui se sont parfois même confrontées. Comme dans un match de boxe. Ou plutôt un match entre deux équipes si on parle de sport collectif. Mais on peut aussi pratiquer un sport individuel de manière collective. Comme la Ryder's Cup qui oppose chaque année les meilleurs golfeurs européens aux meilleurs golfeurs américains. Avec une issue incertaine tant le niveau des joueurs est homogène. En tout cas, la dernière idéologie qui va pas tarder à faire parler d'elle, et vous avez raison de l'évoquer dans ce beau lancement, Nagui, c'est effectivement le frugalisme. J'en parle parce qu'hier après-midi, j'étais chez moi, en train de chercher un sujet de chronique, et tout d'un coup, presque en soubresaut, je tombe sur un documentaire qui parle de Hans. Hans, c'est un Allemand d'une trentaine d'années, qui justement s'adonne au frugalisme. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que... Ah merde, non mais je... Parce que j'écris parfois des débuts de phrases qui me plaisent bien, et là j'ai oublié de le compléter. C'est pas grave. Mais c'est quoi le frugalisme, me direz-vous ?
Oui, c'est quoi ?
Alors le frugalisme, c'est un mode de vie qui consiste à travailler moins pour vivre mieux, quitte à gagner moins. En d'autres termes, c'est une pratique qui suppose de vivre en dessous de ses moyens pour économiser un maximum d'argent afin de pouvoir partir très tôt à la retraite.
C'est dur de lire ça, Nagui. C'était dur.
Moi, on me donne un papier, je lis ce qui est écrit dessus.
Merci, Nagui. Alors c'est bien, mais j'avais prévu une petite vanne. Vous auriez dit, c'est comme le sarkozisme, mais à l'envers. Mais bon, après votre boulot, c'est animateur de jeux télévisé, pas humoriste. Donc, voilà. L'objectif de Hans, c'est d'économiser 80% de son salaire pour partir à la retraite à 40 ans. En fait, il veut pas partir à la retraite à 60 ans. Lui, il veut une retraite qui dure 60 ans. Donc, il se prive de sorties, de cinéma, de produits superflus comme le déodorant ou les paupiètes de veau, et même de chauffage en hiver. Il n'a pas non plus d'animaux parce que ça coûte trop cher en entretien. Il n'a pas de voiture pour les mêmes raisons. Et il n'a pas de femme, mais on ne sait pas pourquoi. Enfin, le documentaire précise pas pourquoi. Et c'est dommage parce que d'aucuns ont au fait penser qu'aucune femme n'aimerait vivre dans une maison non chauffée en hiver ou avec un mari qui sent des dessous de bras. Et ça, c'est réducteur, voire sexiste. Alors que s'il n'a pas de femme, c'est peut-être parce qu'il est con, hein, tout simplement. Ou parce qu'il a fait des erreurs qui l'ont conduit en prison et que là-bas, il a découvert d'autres pratiques et que depuis... Bref, on ne sait pas. Ou peut-être qu'il aime pas les femmes, tout simplement, quoi. Tout ça pour dire quoi?
Oui, c'est une bonne question.
Moi, je vois pas bien l'intérêt du frugalisme. La déconsommation, consommer moins pour limiter notre impact écologique, ça, je soutiens. Moi-même, je pratique. Je vois hier soir, j'ai pas mangé de mayonnaise avec mes surimi. Mais le frugalisme purement égocentrique, qui consiste à se priver maintenant pour profiter plus tard, sans considération écologique, ça me dépasse. Ou alors, frugaliste, c'est juste un nouveau synonyme du mot radin. Patrick, tu payes ton coup. Je peux pas, les gars, je suis frugaliste. Je conçois qu'on puisse avoir envie d'arrêter de bosser si on n'a pas un taf passionnant. Mais se priver maintenant pour vivre mieux plus tard, je sais pas si c'est la solution, sachant que plus tard, tu peux crever.
Bah ouais.
En plus, on n'est pas à l'abri d'une récupération politique. S'il entend cette chronique, Macron va peut-être dire aux gilets jaunes, dites donc les lucioles, j'ai une solution. J'ai une solution, ça s'appelle le frugalisme, ça cartonne en Allemagne, au lieu de vous faire lacrymogéner sur les Champs-Élysées, rentrez chez vous, vendez votre voiture, coupez le chauffage, et votre pouvoir d'achat, il va s'envoler. Les gens font ce qu'ils veulent, hein. Mais raconter qu'on économise 80% de son salaire tous les mois, c'est pas un truc dont on a de quoi être fier en fait. Parce que devenir frugaliste, c'est pas à la portée de tout le monde. Il y en a qui sont contraints d'éviter les dépenses superflues, mais pas pour économiser. Juste parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire plaisir, jamais. Quand tu gagnes bien ta vie, c'est facile d'épargner 80% de ton salaire. Et plus tu les gagnes, plus c'est facile. Bernard Arnault, qui a touché...
T'as fait des économies de lettres, là.
2 milliards d'euros par mois l'année dernière. Eh bien, s'il demande à sa banque de fixer un plafond de retrait à 400 millions d'euros par mois sur sa black card pour maîtriser son budget, il est frugaliste. Non mais franchement, à moins de manger du caviar dans des assiettes en diamant à tous les repas et de manger l'assiette avec, c'est jouable. Donc bonne privation à ceux qui font ça par plaisir, restez discrets quand même et courage à ceux qui n'ont pas le choix. Merci beaucoup.
Bravo. La bande originale. Au Scénarium, le dimanche, toujours à 19h30, Alexis Le Rossignol.
Les confins du monde, à partir de mercredi sur les écrans, ce nouveau film réalisé par Guillaume Niclou, signé par Guillaume Niclou, porté par Gaspard Ulliel, par Guillaume Guix, Guillaume étant notre invité. Nous allons écouter justement en musique les Guillaumes, ce que vous aimez, ce qui accompagne votre vie, notamment au milieu des années 90. Guillaume Guix, vous écoutiez. Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi Christine a joué des sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tronches de ceux qui ne sont pas d'accord.
Milieu 90, c'est un peu vos débuts dans le cinéma. Vous faites de la figuration, je crois, Guillaume, dans un téléfilm.
C'est ça, oui.
De vous avez l'air étonné,
ouais, c'est ça. Non, c'est un peu loin, mais de José Dayan, de la figuration. J'étais venu pour faire de la figuration, ouais. Puis on m'avait fait dire une phrase, en fait, c'était « Je demandais l'heure à Richard Anconina », je crois.
Et après, ça s'est enchaîné, comment? Des castings ou des propositions, des petits rôles? Comment ça a marché pour vous?
Après, un petit peu, ouais, il y avait un petit circuit de téléfilms à Marseille, à France 3 Régions. Donc je faisais partie de ça, j'ai fait 2-3 téléfilms jusqu'à un téléfilm Arte où j'ai eu le rôle principal à 16 ans.
C'est
et
jeune,
là, c'est la première fois où j'ai eu envie d'en faire un métier.
Dans ce cas-là, quoi, vous traînez à FR3 pour se voir, c'est des annonces de casting?
Ah non, pas du tout.
Il y avait une
directrice de casting qui m'avait pris d'affection un peu, et puis du coup qui m'appelait de temps en temps pour jouer dans...
Mais à qui vous avez formulé le véritable souhait de jouer? Vous dites je veux être comédien?
Non, en fait, j'étais dans un cours de théâtre, un peu comme on est au judo ou au foot, et puis... Elle avait vu un spectacle de fin d'année, et puis voilà. J'ai pas vraiment formulé de désir avant les 16 ans, et c'était les films Arte où, pour la première fois, j'ai pris conscience qu'un cinéaste racontait son monde, quoi, qu'un mec avait envie de raconter quelque chose vraiment, et que moi j'étais vecteur de ça, et là j'ai eu envie de.
Ouais, quand on est comédien, on raconte le monde de l'autre.
Ouais, on témoigne, ouais, c'est ça.
Ouais, vous dites vecteur, mais on peut aussi dire objet, on peut dire pantin.
Ouais, sauf qu'on y ajoute ce qu'on est, ce qu'on transpire.
Quoi, justement, ouais. Qu'est-ce qu'on peut y rajouter ?
Bah, ce qui lui échappe à lui, quoi, je sais pas.
Ouais. L'incarnation.
On rajoute ce qui nous échappe à nous aussi, ouais, l'incarnation, c'est-à-dire pas le point de vue, mais ce qu'on en fait, ce qu'on est nous, ce qu'on transpire, quoi, ce qui nous échappe.
On est quand même dépendant des comédiens, des comédiennes que l'on choisit, Guillaume Nicolou. Dépendant de ce que vient de dire Guillaume Guis, de ce qu'ils en font,
oui.
De leur interprétation.
Oui. Mais c'est ça qui est formidable. C'est
pas, ouais, et puis à la fois, ça peut être totalement différent.
Moi, c'est ce que
j'avais imaginé en l'écrivant.
Moi, j'attends le moment où je vais être dépossédé de mon scénario. Et où, je dis pas l'acteur, mais où la personne, Guillaume Guis, par exemple, Gasparin, va rentrer dans le costume. Et là, moi, je m'efface. À partir du moment où j'ai eu ce désir pour eux, j'ai confiance.
C'est plus à vous.
Non, ça m'appartient plus. C'est ça que j'aime, c'est cette dépossession en fait.
Vous l'avez au début, avant même d'écrire le scénario, l'idée des acteurs qui vont l'interpréter.
Non, c'est très variable. Ouais. Ça dépend. Parfois oui. Puis il est possible des fois d'avoir un comédien en tête et puis que le personnage mute au fur et à mesure de l'écriture. Donc il se transforme en quelqu'un d'autre. Et puis il y a une figure qui apparaît. Parfois non. Parfois il faut rencontrer une personne. D'un seul coup tout s'illumine ou pas. J'attends pas quelque chose en particulier. Moi, la seule chose que j'attends, c'est d'être surpris. Et surtout, de ne pas aller dans les clous de ce qui est prévu, apparemment. Donc, je suis plutôt assez ouvert, aware. Voilà. Okay. J'essaie de me mettre dans une posture où on va fabriquer ensemble et être surpris.
Il est autoritaire, il est comment sur le tournage ?
Ah non, moi, je le trouvais très doux, moi.
Vous dites qu'il est mystérieux aussi.
Bah, il aime les zones d'ombre, j'ai l'impression, mais c'était le sujet du film aussi, donc c'était parfait.
Ouais, mais pour diriger, être mystérieux, c'est peut-être compliqué.
Non, pour diriger, c'est pas mystérieux, mais c'est vrai qu'on sent qu'il aime la surprise.
Vas-y, je ne te dis rien.
Vas-y.
C'est vrai qu'on sent qu'il aime la surprise et surprendre, donc nous, on préparait pas trop avant, on savait pas vraiment comment on allait jouer. Mmh. Il fait tout pour qu'on n'appréhende pas, en fait, j'ai l'impression, et qu'on. Ça se passe au présent, c'est un art du présent, et qu'on soit. Voilà.
Toujours dans les années 90, Guillaume Nicolou, vous écoutiez les frères Jacques.
Le soleil est venu se poser ce matin sur la branche. Un oiseau est venu.
Qui étaient vraiment des chanteurs au sens interprète du terme.
Il faut que je réponde.
Comédien, non. Pourquoi vous les avez choisis ? Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Parce que je pensais qu'il fallait trouver une chanson en rapport avec le film que je faisais à l'époque. Et là, il se trouve que ce titre est dans le poulpe.
Alors, on s'est mal exprimé ou vous avez mal compris ce qu'on a dit. L'idée de la bande originale, c'est qu'on peut très bien, aller passer son bac, rencontrer sa femme ou aller à un enterrement et que dans la voiture ou dans le taxi, il y ait une musique qui soit collée à cet événement sans que ça corresponde.
J'ai mal.
Donc, moi, ce que je
c'est mon attaché de presse qui m'a dit.
Oh, je vous revenir la semaine prochaine avec la bonne liste.
Ceci dit, je l'ai écouté, là, c'est quelque chose, oui, qui d'ailleurs évoque pas mal de, enfin, qui crée de la nostalgie. Alors, l'écoute.
Et quelles images avez-vous donc en entendant cette musique ?
Bah parce que je la trouve très belle, je la trouve très, elle est en même temps triste et en même temps elle est. Puis je me souviens très bien sur quelles images j'ai mis cette musique. Il y a une note d'espoir aussi. C'est parce que j'étais très déprimé à la fin d'un film que j'ai fait, qui avait toutes les raisons de rentrer dans un, avant sur recette, quinzaine, voilà, la bonne presse. Après, plus rien. Ah, bah non, plus rien.
Et donc c'est là que
je me suis mis à écrire.
Hein.
Voilà, j'ai écrit quelques bouquins. Ma passion première, c'est le cinéma. Et qu'à partir du moment où je n'en fais plus, je suis malheureux. Ou plus malheureux que d'habitude. Donc, je me suis occupé en écrivant. J'ai été extrêmement chanceux parce que j'ai jamais eu à démarcher d'éditeur. J'ai toujours un éditeur avec des avaloirs, en plus, qui m'a permis quand même de vivre, de nourrir ma famille.
Flammarion, Pauvert, enfin, je veux dire, c'est pas non plus des petites maisons.
Oui, non, j'en étais très heureux, mais c'est vrai que ma passion, c'est le cinéma.
Oui.
Donc, j'ai nourri.
Et vous étiez triste par paradoxe du film qui s'appelait Faut pas rire du bonheur.
Mais il se trouve qu'en effet, ce film-là ne m'a pas forcément porté chance pour embrayer tout de suite. Mais malgré tout, c'est ce qui a permis à Charles Gassot, le producteur du Poulpe, de venir me chercher pour me proposer ce film.
Et puis ça vous a permis aussi de rencontrer Sylvie Piala, j'imagine. C'était pas après la publication de Zoo City, en tout cas, elle avait lu C'est, et oui, ça plaisait à Maurice Pialat.
C'est Maurice Pialat qui devait adapter Zoo City.
Ouais.
Oui. Donc ça a été la première rencontre. Et là, c'est vrai que ça m'a redonné un peu confiance. Et du coup, je me suis remis.
Donc c'est pas une si grosse erreur que ça, finalement.
Non, non, mais, non, mais la vie est curieuse. Ouais. Ouais. C'est un concours de circonstances. Ouais.
Et c'est Sylvie Pialat qui vous a donné l'idée de vous intéresser à ce.
Absolument.
Aux confins du monde,
c'est
enfin,
elle
au,
qui m'a,
au 9
qui a pointé,
mars 1945.
Ouais, ouais. Elle a pointé cet événement. Et puis, ils sont revenus à la charge avec Olivier Radeau, le directeur artistique. Ils sont revenus. Mais vraiment, tu devrais quand même te pencher sur la question. Et puis, au fur et à mesure, en effet, c'est arrivé au bon moment. Je pense que c'était la bonne fenêtre de tir.
En 2011, Guillaume Gouix, vous écoutiez.
I want to know the same thing. Everyone wants to know. How's it gone?
Tom Waits qui revient du sport.
J'écoute encore aujourd'hui, hein, pas que en 2011.
Et quelle image vous avez en écoutant Tom Waits, justement?
Bah, j'étais. Je sais pas. Ça me fait pleurer. J'aime bien les chansons qui me font pleurer, moi. Voilà. Et c'est la seule que je suis capable de chanter parce que j'ai une voix de merde. depuis que je suis gamin, donc Tom Waits, je peux. Voilà, donc j'ai essayé de les apprendre.
Et en 2011, après avoir été le vecteur de l'univers des autres, vous passez à la réalisation. Vous réalisez un court-métrage.
Ah oui, c'est ça. Alexis Ivanovitch, vous êtes mon héros.
Ouais. Ouais. Vous avez l'air de regretter le titre, là.
Non, non, j'aime beaucoup le titre.
Ouais.
C'était une aventure géniale. C'était... J'étais au café avec ma chérie de l'époque et mon meilleur ami qui est Swan Arlo, le comédien.
Ouais, qu'on a vu dans Petit Paysan.
Et j'ai juste dit, j'aimerais bien vous filmer. J'ai vu un mec dans un bar se prendre une baffe devant sa petite amie. Et ensuite, pas du tout assumer, pas réussir à se défendre. Et ensuite, être super triste et pas vouloir qu'on l'aide. Et plus regarder sa petite amie. Et j'ai voulu les filmer sur cette histoire-là. Et je pensais qu'on allait faire ça comme des potes. Avec un caméscope, et puis en fait, on nous a filé un peu d'argent, et puis en fait, on a été à Cannes et on a eu un prix. Et donc voilà, c'était un premier cours.
Et vous
rigolo,
n'êtes plus mais... pote avec votre pote, et votre petite amie vous a quitté.
Et voilà.
Est-ce qu'elle est partie avec votre pote? Elle est partie avec votre pote ou pas?
Elle est partie avec le pote, ouais. Mais non, c'était une belle aventure. Donc,
mais au-delà de ça, ça veut dire que ça donne d'autres envies, ça interroge aussi sur son métier de comédien. Est-ce qu'on peut se dire aussi, j'ai préféré cette expérience à celle du comédien ou...
Je sais pas, je préfère pas d'expérience en particulier. Après, j'en ai fait un autre cours et là, j'espère faire un long. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer du cinéma. Et en tant qu'acteur, je m'y retrouve pas toujours. Parce que j'aime trop le cinéma, en fait. Donc j'aime les cinéastes pour qui c'est nécessaire de faire des films. Et voilà, quand on tombe sur Guillaume Niclou,
on
je pourrais faire l'acteur 10 000 fois, je suis ravi, mais je peux pas faire l'acteur à tout prix, quoi. Voilà, moi j'aime le cinéma un peu nécessaire et un peu viscéral. Et du coup, quand je le trouve pas, eh ben, je peux pas rien faire non plus, donc je passe mon temps à essayer d'écrire et d'en fabriquer moi-même.
Et le cinéma, les grosses productions, qu'elles soient américaines, qu'elles soient françaises, ou les comédies, vous les jugez comment?
Mais j'adore, enfin, j'ai pas de problème. Pour moi, Alain Chabat, c'est un auteur aussi fort que Claire Denis ou Guillaume Niclou.
Je pensais pas à lui en l'occurrence, mais.
Non, mais je veux dire, en fait, c'est pas une histoire de genre ou d'économie. J'aime pas
non,
que
mais
les
vous
films.
Dites, j'aime le cinéma qui.
Ouais, donc, mais ça, j'imagine en fait, que viscéral et nécessaire, c'est juste chez les gens. Il y a des gens chez qui la nécessité, c'est de faire rire. Quand je ressens vraiment quelque chose, j'ai envie d'y aller. De temps en temps, c'est plus de l'industrie, de la commande, des choses. Voilà, moi,
mais
je suis moins
est,
passionné par ça.
Le rire est une émotion aussi.
Mais le rire est une émotion quand il est sincère, quoi. Quand la personne qui a envie de faire rire le porte et l'écrit et le pense. Et voilà, c'est pas tout le temps le cas, je trouve, mais je juge pas le genre de la comédie. J'adore les comédies, mais.
Et on avait vraiment envie de vous entendre dire du mal d'Aladin. Et tout
non,
ça.
Mais j'ai aucun mal à dire de
non,
personne.
Mais je pense que c'est ça. Mais moi, je peux en dire pour lui.
Non, pas du tout.
C'est bien que tu viennes me lancer.
Guillaume Niclou, vous écoutiez en 2011.
Et je vis comme une boule de pierre.
Corinne Charmy.
Corinne Charmille, qui était un succès des années plutôt 90 que 2011.
Voilà. On a tout faux, ils ont complètement inversé les musiques.
Mais non, fait. Mais c'est bien, c'est pas grave. On peut écouter cette musique-là en 2012.
En fait, je me suis moi-même vautré parce qu'en fait, j'ai cité cette chanson d'abord. J'aime beaucoup la chanson qui est écrite par Christophe. Et elle est sortie à l'été 86.
Ouais.
Et juste en septembre, c'est les événements de la rue de Rennes. Et je croyais qu'il fallait associer une musique à un de mes films. Ça correspondait à l'affaire Gorgi que j'ai réalisé. Sur les événements de la rue de Rennes. Non, tout était calculé quand même, j'ai pas la lancé au hasard. Hein.
C'est ça, c'est Thierry.
On retrouve l'auteur.
Ouais. Et puis, en dehors du fait que Corinne Charby est était belle. Très belle.
Absolument. On se dit que si on se trompe, on est réinvité normalement dans la saison. Oui, on essaye dans chaque émission de se tromper de concept.
Vous serez réinvité, il n'y a aucun problème. aucun souci.
Quoi qu'il advienne, c'est Thierry Lhermitte qui incarne ce premier ministre qui est confronté à des attentats, c'est ça ?
Vous voyez, pardon, qu'une musique peut évoquer des images, des lieux, des événements et des moments dans la vie sans forcément coller à un film en particulier. Dans les années donc 2011-2012.
C'est cette réalisation de téléfilm dont vous venez de parler, Guillaume Nicloux. Et pourquoi s'être penché sur cet événement, sur ces attentats ?
Alors c'est une proposition, comme le Poulpe en fait. Hein. Ce ne sont pas des projets initiés par moi-même. Il se trouve que j'ai reçu ce scénario de Canal et que j'ai trouvé ça passionnant parce que je connaissais très peu cette période et puis les histoires de cohabitation avec Mitterrand, Chirac. Et c'était écrit d'une façon très très documentée par Marc Sirigas. C'était vraiment un très beau scénario. Moi, j'ai eu juste l'envie d'y intégrer la chose dont vous avez parlé, c'est-à-dire un père et son fils, encore une fois, à l'intérieur. Mais voilà, ce sont les seules choses que j'ai modifiées. C'était assez passionnant de en plus, il y avait un nombre d'acteurs, de comédiens étonnants, de beaucoup de nationalités. Enfin, j'ai beaucoup aimé faire ce projet.
Et pourquoi insérer toujours cette relation fils-père ?
Ah, ça, je n'en parle que sur le divan. Évidemment, ça, faut que je sois invité par Marc-Olivier Faugier.
D'accord. Mais sinon, on peut vous faire allonger. Je m'en fous.
Il veut même pas s'allonger avec toi.
Ah oui, non, ça, c'est pas très grave.
On peut en parler. Ça, on peut en parler.
Voilà. Ça se discute.
Eh bien, on avance.
Mais ça, c'est des phrases de psy, ça. C'est bien.
On avance.
Pensez-y.
En 2014.
Ça me dégoûte tellement.
Guillaume Wiggs, vous écoutiez.
Do a twirl, see my eyes, throw a glance. Can't you see I'm a natural?
C'est bon, ça.
Bah, c'est très beau, quand même.
Oui.
China Woman.
Party girl, funny girl.
J'entends me dire, vous devez aimer Springsteen aussi.
Beaucoup
si
aussi.
Si vous aimez ça, si vous aimez Tom Waits, voilà. Les voix qui ont vécu cette espèce de.
Ouais, bah là, en plus, c'est une puissance. Voix très particulière parce que c'est un. Transsexuel, donc une femme devenue homme, et je suis tombé amoureux de tout l'album. Voilà, c'était l'album existait auparavant, mais il est devenu la BO d'un film qui s'appelle Party Girl. Voilà, de Marie Amashukeli, Claire Burger, Samuel Taze.
Et c'est une année chargée pour vous, 2014, une période dense. Ouais.
Quatre longs métrages, quatre films à l'affiche, Les Enragés. La vie en grand, Les Anarchistes et je voulais m'arrêter sur Les Rois du Monde de Laurent Lafargue.
Et Braqueur aussi, je crois.
Et Braqueur, ah ouais, d'accord.
Peut-être, je
sais pas s'il est sorti pile.
Ouais, mais... c'est un peu des hasards en fait. Je sais pas les années. En fait, les films, comme c'est un peu en ce moment délicat pour les financer, pour qu'ils se fassent et tout ça, on dit oui et puis tout d'un coup ils se font tous et puis donc je les fais tous et puis il y a des années où ils se font pas donc je les fais pas mais...
Puis il doit y avoir des moments où les emplois du temps, les plannings vous empêchent de tout faire, vous avez dit oui mais...
Là c'était bien tombé cette année-là.
Puis il y a des films pas très financés aussi, Les Rois du Monde, je crois que c'était vraiment pas un film avec
c'était
beaucoup d'argent.
Très peu, c'était vraiment un film de copains.
Où il y avait Cantona, Céline Salette.
Salette, Sergi Lopez, Romane Boringer.
C'était tellement bien ça.
C'était super, Bah, c'était un film de Laurent Lafargue qui était un metteur en scène, enfin qui est toujours un metteur en scène de théâtre et qui avait écrit ce film sur sa région et la folie de sa région. Et c'était
jaloux,
super.
Ouais.
Mais moi j'aime bien. C'est le même discours que tout à l'heure, mais là je viens de faire le premier film d'un garçon de 18 ans. On l'a fait aussi avec très peu de moyens. C'est pas. Évidemment, pour vivre de temps en temps, il faut faire des films avec un peu plus de moyens, mais. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui font les films et les cinéastes. Donc là, c'est des gens passionnants, donc j'y vais sans problème.
2014, on va voir comment Guillaume Nicloux s'est trompé avec quelle musique vous écoutiez. Et c'est pas ça. Si. On est bon. La question sans réponse, The Unanswered Question, c'est le titre.
Ouais, c'est une musique très particulière. Ça, c'est un auteur, Charles Ives, qui a inspiré énormément de compositeurs, de Morton Feldman à John Cage. Et c'est une musique très mystérieuse. Elle porte bien son titre, en fait. Et c'est vrai que c'est la musique qui est devenue le thème de Valley of Love, le film que j'ai fait avec Gérard et Isabelle Huppert. Et qu'il a vraiment nourri tout le tournage, la préparation et tout le montage. C'est rare, en fait, qu'une musique. En fait, j'insiste en plus, j'ai écrit aussi avec cette musique, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin.
Dire parce que
la
bande originale d'un film, on l'entend pas sur un tournage, on l'entend pas sur sur les scènes que l'on fait. Ouais, ça se passe pas en musique normalement.
Alors après,
même les scènes où on voit les gens danser d'ailleurs, il y a pas de musique.
Oui. Et puis alors pourquoi une musique vous touche à ce point? C'est le grand mystère de l'émotion en fait. C'est pourquoi d'un seul coup on est capté, on est fasciné, pourquoi il se passe quelque chose en nous.
Vous voulez vous allonger ou pas?
Non, mais...
Ah c'est, t'es d'accord, c'est
ça. Ça fait deux fois qu'il te dit non.
Je l'aurai à l'usure.
C'est une musique qui
vous c'est transporte.
C'est très difficile de rire en fait avec la musique qui passe derrière. Ouais. C'est un peu compliqué.
C'est une musique qui vous a transporté.
Oui, mais qui est chargée de quelque chose de très mystérieux.
Mais pardon, pour être concret, vous dites j'écris avec cette musique. Qui de la musique est d'écriture? Pour reprendre l'image de la fête de la poule. Autrement dit, c'est de la musique qui vous a mis dans cet état et dans cette envie d'écrire, où vous avez écrit et vous avez dit j'ai besoin ou j'ai envie d'être dans cette humeur-là, qu'est-ce que je vais pouvoir bien écouter?
La porosité, elle est quand même très... C'est très fin tout ça, je pourrais pas l'expliquer en fait. C'est quelque chose d'assez mystérieux, cette alchimie curieuse où lorsque vous... Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes tombé amoureux de votre compagne actuelle? Est-ce que vous pouvez le dire? Vous avez croisé un regard, vous avez croisé un regard, voilà, il y a un mystère là-dedans, c'est très curieux ce désir. Vous pouvez pas le rationaliser.
À un moment donné, vous êtes capté.
C'est très compliqué. Bah, la musique, c'est pareil.
On peut tomber amoureux d'un regard, on peut tomber amoureux de vannes.
Oui, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a?
Dans un premier temps, ce sont ces vannes qui m'ont fait rire. Ah. Je me suis dit, ok, donc il y a de la vanne, il y a de l'intelligence, et ainsi de suite.
D'accord.
C'était sûr qu'il pouvait
ça
répondre.
Peut être ça, mais ça peut être aussi ce qui se projette à l'intérieur de ce regard.
Ouais, bien sûr.
Et la peinture, c'est la même chose. Et la musique, c'est pareil. Pour moi, c'est quelque chose de très puissant, que je n'essaie pas de rationaliser, mais que je ressens. Donc cette musique-là a déclenché énormément de choses.
Et en 2015, c'est l'enlèvement de Michel Houellebecq. Il y a une forme de faux mystère, en fait, puisque ça part d'une histoire vraie, je crois. Michel Houellebecq part en Espagne.
Il est attendu en Allemagne pour un festival du livre. Ouais. Il se trouve qu'ils l'attendent. À sortie de l'avion, il n'y a personne. Et à partir de là, la rumeur fuse très vite. Hein. C'est enlèvement à Caïda, tout de suite. Ah, voilà, on tombe de notre chaise, quand même. Mm-hmm. Et puis finalement, ah bah non. Il avait oublié de regarder ses mails, il y a eu un problème internet, et puis il n'est pas venu simplement parce qu'il a oublié. Après, il donne son explication, Michel. Moi, j'ai simplement extrapolé cette idée qu'en fait, il avait été enlevé pour des raisons assez obscures, et que peut-être une résolution est possible dans la prochain épisode.
Voilà. Les confins du monde sortira ce mercredi 5 décembre. Nous avons demandé à Michel Herman et merci de venir à ce micro. Michel, vous êtes philosophe universitaire. Vous avez signé un livre chez Plon qui s'appelle Au bout de la colère. La colère est un signe de notre... Un signe fort de notre moment, de notre société en ce moment?
Ah oui, je pense que c'est l'émotion actuelle, depuis déjà quelques années. Et ce qui se passe politiquement aujourd'hui, les gilets jaunes par exemple, eh bien c'est une forme de colère. C'est une forme
clairement,
de colère qu'on va appeler l'indignation. Alors il y a d'autres formes de colère. Le film de Guillaume Niclou, en parlant de vengeance, parle d'une colère, qui est une colère bien particulière.
On va rappeler dans le film, c'est en l'occurrence le frère et son épouse qui ont été tués sous ses yeux. Donc il veut venger le crime de sa famille.
Oui, il veut venger le crime. Et alors ce qui est intéressant, c'est de savoir... Tout le monde comprend pourquoi on veut venger un crime. Et en fait, ça n'est pas permis. On est non seulement aux confins du monde, mais aussi aux confins du bien et du mal, en quelque sorte. Et tout le film montre ce que la guerre fait aux hommes. Et elle rend, je trouve que vous le montrez admirablement, elle rend à la fois les pulsions et les passions immédiates. Comme s'il fallait vivre les choses sur le coup, sur le moment.
La vengeance est le moteur qui anime justement le personnage joué par Gaspard Ulliel dans le film. Est-ce que on peut dire que la vengeance a du bon alors qu'elle est montrée du doigt comme étant quelque chose de répréhensible?
Oui, alors la vengeance a toujours été, la vengeance c'est ce qui semble juste. Pourquoi? Parce que au fond, l'être humain ne fonctionne pas qu'à l'intérêt, il ne fonctionne pas non plus qu'au désir, il fonctionne aussi à la fierté de tout temps. Ça s'est appelé au gré des moments, ça s'est appelé l'honneur, ça peut s'appeler aujourd'hui le narcissisme, mais ça donne peut-être de petites vengeances sans intérêt.
L'amour propre,
qui au fond le nom philosophique de la chose, bien évidemment. Et donc la vengeance, c'est inscrit au cœur de la condition humaine, du rapport des gens entre eux, des individus entre eux. puisque, au fond, toute offense demande réparation, d'une façon ou d'une autre. La réparation peut être le pardon. Mais je crois que pour arriver au pardon, il faut sans doute faire un long cheminement. Et ce long cheminement passe non pas nécessairement par la vengeance en acte, d'ailleurs le film reste ouvert, mais par le désir de vengeance. On peut s'y confronter avec force, avec violence, on peut s'y confronter avec mélancolie, c'est un peu tout ça que fait le héros du film.
Et c'est aussi un sentiment qui contamine le reste, puisque on a une part de vengeance amoureuse aussi. En tout cas, ça vient dénaturer le rapport amoureux dans le film. Cette obsession pour la vengeance fait que le personnage de Robert Hassen ne peut pas envisager l'être aimé, ou en tout cas celle vers qui il se sent attiré, comme un amour simple.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les deux passions, c'est une passion la vengeance, mmh. L'amour est une passion aussi. Et les deux passions ne peuvent pas se vivre en même temps, c'est au fond ça qui arrive au héros. Surtout dans ce contexte, qui est le contexte de la guerre. Tout est déterminé par un contexte bien particulier, et que vous montrez d'ailleurs dans l'éclair obscur et de la condition humaine et de l'espace. On est souvent dans l'ombre, dans la forêt. Les scènes se passent la nuit, etc., etc. Alors donc effectivement, la vengeance, c'est un projet. Mm-hmm. C'est un projet. C'est pas une réplique immédiate. C'est un projet, et c'est un projet qui est un projet de révolte. C'est ça qui en fait d'ailleurs une passion éminemment narrative. Mm-hmm. Ce sont les romanciers.
Edmond Dantès,
les cinéastes. Mm. Toute l'œuvre de Clint Eastwood, par exemple, est immergée dans la vengeance, dans le sentiment mm-hmm. de vengeance. Qui parle de la vengeance. Ce ne sont pas les philosophes. Les philosophes en ont parlé très très peu. Pourquoi ? Parce que c'est pas bien, quelque sorte.
Mais il y a aussi la notion de la vengeance, c'est la force, c'est le justicier, c'est le soldat, c'est le muscle qui. C'est la loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et de l'autre côté, on a un sentiment que le pardon peut être considéré comme une faiblesse, justement, et comme
un abandon. Notre société, notre civilisation a opposé à la loi du talion l'éthique du pardon. Et avec le christianisme, et on va jusqu'à éventuellement demander d'aimer ses ennemis. Commandement tout à fait impossible, disait le philosophe Paul Ricoeur. Et donc, il y a là une ambivalence totale. Une ambivalence totale parce que entre le juste et la justice. La justice veut, en quelque sorte, non pas condamner le coupable, mais faire payer, en quelque sorte, le coupable au nom de la loi qui a été enfreinte. Mm. Bon. Et le sentiment de vengeance, c'est le sentiment de retrouver quelque chose de juste, c'est-à-dire une réciprocité, un équilibre. Et alors cet équilibre, s'il passe la plupart du temps, si on passe à l'acte, c'est faire le mal, mais c'est faire le mal sans méchanceté, c'est faire le mal par une sorte de réaction anthropologique en quelque sorte.
Ouais, un sentiment d'équité, mais enfin c'est rarement le cas.
Un sentiment d'équilibre, un sentiment de réciprocité.
C'est ça.
Vous savez, le grand mot, c'est la réciprocité. C'est un mot qui a été complètement dominé par le mot égalité. Le mot égalité est un mot du vocabulaire politique et social, non, mais ça devient un mot moral.
Ça devient sans fin. Tu m'as fait ça, donc je te fais ça, et après ça.
Oui, c'est pour ça que dans la mythologie grecque et dans le théâtre grec, à un moment, Athéna décrète le tribunal. Mm-hmm. Et le tribunal qui va mettre fin à la vengeance des Atrides. Et c'est la déesse lumineuse, Athéna, la déesse lumineuse de la société, de la civilisation, qui va s'opposer aux déesses de la vengeance. Mais la déesse de la vengeance, la Némésis, c'est la déesse de la nuit, mais c'est la déesse de l'équilibre. Et les Grecs avaient cette subtilité que nous avons totalement perdue, c'est de considérer que finalement, il y a, on dirait aujourd'hui, une destinée, un destin humain, mm-hmm. qui fait que trop de mal ou trop de bien réclame un équilibre. La némésis grecque, elle pouvait non pas punir, mais rééquilibrer le trop de bien, le trop de bonne fortune. Parce qu'on était dans un monde tout à fait différent. Mais bien que nos mondes soient très différents, nous avons toujours au cœur cette idée qu'une offense réclame réparation, que quelque chose en nous doit être réparé.
Donc la colère des Gilets jaunes ne va pas s'arrêter.
Alors, la colère des Gilets jaunes, c'est pas tout à fait une vengeance, c'est une...
Tant qu'il n'y a pas réparation.
C'est-à-dire que la manière dont les choses se déroulent montre bien que les Gilets jaunes demandent, au fond, à être reconnus. D'ailleurs, ils l'ont dit.
Être entendus,
être reconnus, pour un certain nombre d'entre eux, dans leurs difficultés, dans leurs souffrances. Et ça prend une tournure qui pourrait aller vers la passion. C'était une émotion, les Gilets jaunes. Ça peut aller vers la passion, effectivement. Et je crois que politiquement, ça ne va pas arranger les choses si ça se dirige vers la passion.
Clairement. Merci Michel Herman, philosophe universitaire. Je rappelle votre livre chez Plon, Au bout de la colère. Tanguy Passureau, après la colère Tanguy, Noël arrive bientôt.
Oui, et comme chaque année, on se retrouve à galérer à chercher des cadeaux pour des gens qu'on n'aime pas trop et que revendront le lendemain sur eBay. Et puis qu'offrir par exemple à Leïla, elle a tout Platon, tout Kant, un télé-loisir. Hein, heureusement, ah ouais. Gwyneth Paltrow, qui a une boutique en ligne, vous savez, l'actrice américaine, elle vend des trucs, mais à un prix, vous allez voir, délirant.
On le saura, on aura le catalogue après les infos de midi. Oui. Original. Merci de nous rejoindre. Leïla Kadourou est là, Daniel Morin aussi, Albert Algout, Tanguy Passureau, Frédéric Siniste et nos invités Guillaume Gouix et Guillaume Niclou.
Bravo.
Les confins du monde, le film sortira ce mercredi 5 décembre. Gérard Depardieu fait partie du casting, Gaspard Huyel aussi, et Guillaume Gouix qui est avec nous et qui a maigri, souffert sur le tournage, comme vous le racontiez tout à l'heure.
On a
l'impression que c'était dur, physiquement.
C'était dur pour tout le monde, pour l'équipe encore plus parfois, parce qu'avec leur matos à porter, tout ça. Non, mais c'était pas de la souffrance.
À la pause, on peut le dire. Vous étiez en larmes pendant les.
Oui, je pleure là.
Oui, c'est ça. D'accord.
Louise Bourgoin était notre invitée dans la semaine. On lui a demandé on lui a dit d'ailleurs que vous seriez notre invitée ce vendredi. On lui a demandé ce qu'elle avait gardé dans ses souvenirs de ce tournage avec vous.
C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce qu'il a une exigence. Voilà, il est comme ça, assez austère et assez dur. Mais par exemple, comme ça se passe au 18e, pas de musique dans les loges. Qu'on vit un peu comme au 18e, voilà, il est un peu...
Pieds nus, sans montre.
Par exemple, Pauline Étienne, c'était une sainte pour moi, parce que dans le film, il faisait moins 16, on a tourné en Allemagne, en plein hiver, et elle était comme ça, pieds nus, il voulait qu'elle joue vraiment pieds nus pour ressentir la souffrance de son personnage, enfin voilà, c'était très jusqu'au boutiste.
C'était pour la religieuse.
C'est totalement faux. N'importe quoi, Louise. N'importe quoi.
Donc on imagine que ça devait pas être simple pour... Maintenant, vous pouvez parler, Guillaume. Vous pouvez y aller.
Mais
Guillaume,
il a sûrement changé entre deux tournages.
On ne dit pas pieds nus.
Non, mais là,
les scènes de nudité, par exemple. On a toujours le sentiment que pour une comédienne, c'est quelque chose d'habituel. On lui demande de faire une scène nue. C'est une femme, donc elle peut être nue. Et c'est plus rare et plus délicat pour les hommes.
Ouais, peut-être parce que les gens aiment moins regarder.
Ah non.
Peut-être simplement.
On parle de stéréotypes dans la société française, mais c'est dommage.
Les statues grecques, c'était des hommes nus et ça gênait personne.
Non, moi j'ai pas de. À partir du moment. Là, le film est cru, quoi. Dans tout ce qu'il décide de montrer, dans la violence, dans ses corps démembrés, dans les soirées, dans la drogue.
Et est-ce que quand on est le réalisateur aussi, on se prépare physiquement à un tournage comme celui-ci?
J'ai hâte en fait de me retrouver vraiment dans l'immersion totale pour être totalement intégré, impliqué, absorbé en fait dans cet univers.
On reparle des confins du monde évidemment, film qui sortira ce mercredi 5 décembre. Tout de suite, voici Tanguy Passureau. Tanguy Passureau, Gwyneth Paltrow est une actrice formidable.
Oui, on l'adore, d'autant plus qu'on voit plus très bien qui c'est, parce que Hollywood sort chaque mois de la star au kilo, 40 maximum par star. Alors Gwyneth Paltrow, pour vous situer, à 46 ans, elle est très glamour, on peut l'être à la quarantaine. Regardez-moi, j'en ai 44, j'en ai 44. Et elle a tourné dans Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3, Spider-Man, Avengers, Avengers 4. Si bien que si en cinéma vous n'aimez qu'Arnaud Desplechin, vous savez aussi peu qui c'est qu'Alain Duhamel sait qui est le nouveau coiffeur à la mode qui pourrait lui donner une petite touche de folie. Gwyneth est une star, c'est-à-dire qu'elle peut vivre de façon totalement fantasque. Tout le monde trouve ça normal. Elle a appelé sa fille Apple. Elle trouvait que Samsung c'était trop connoté asiatique. Et son fils Moses, le nom nom en anglais pour Moïse. Depuis, le petit à Malibu tente chaque été d'ouvrir la mer en deux pour faire passer 3-4 juifs qui lui disent « Repose-toi bébé, on aime autant être sur la plage à se bronzer le bassin ». Elle l'a appelé Moses en référence à une chanson écrite par Chris Martin de Coldplay, son mari de l'époque.
Évidemment.
C'est-à-dire que si elle avait été en couple avec Patrick Sébastien, le gosse s'appelait Sardine. Et Cyril Hanouna dormait devant chez elle en lui disant « Tant que je suis pas le parrain de ce petit ange, je bouge pas ». Sinon, en 2008, Gwyneth a lancé un site internet lié au bien-être parce que la star ciné à Hollywood fait surtout du yoga en bouffant des algues. Le matin, elle compte ses chakras en demandant à sa femme de ménage portoricaine sans papier « Mais Maria, pourquoi êtes-vous si stressée ? Allez, faites-moi un ragoût de tofu pour 27 personnes en une heure maxi, sinon j'appelle les services de l'immigration ». Ce site qui s'appelle Goop a été épinglé par les professionnels de santé qui trouvent que ça confine à la sorcellerie. Gwyneth recommande quand même de se mettre des œufs de jade dans le vagin pour se booster le périnée. Ensuite, vous marchez de travers, une amie vous dit « ça va ?» Vous répondez « oui, oui, mais j'ai un œuf ». Si vous habitez à Loué dans la Sarthe, ça fait sa petite impression. François Fillon, qui est du coin, ne doit pas être le dernier à s'enfoncer un œuf. Alors Gwyneth, dans un article, dit aussi qu'il est bon de se faire des lavements intimes avec du café. Alors par contre, juste le café, pas la capsule Nespresso. Sinon, autant prendre l'œuf de François Fillon. Et ça, les gynécos et autres proctologues, enfin tous les spécialistes de l'intérieur à part Castaner, affirment que c'est mauvais pour la santé. Globalement, il faut vivre sans se remplir le corps. Ou alors juste avec des chips devant les vacances de l'amour, en se disant qu'Hélène et Nicolas ont quand même pris cher et que la vie est une chienne. Bref, le site de Gwyneth, c'est une belle arnaque. Mais c'est aussi une boutique en ligne. Donc, une belle arnaque. Hein, parce que l'œuf de jade, par exemple, est à 80 euros. Donc, si après, vous n'avez pas le périnée aussi balèze que l'ensemble du corps d'Olivier Mine, ainsi à la limite, votre périnée ne hurle pas « Allez, on arrive à la fin de la clepsydre », c'est un échec.
Bon, et pour Noël, donc, Gwyneth Paltrow a composé sa liste de cadeaux.
Oui, et c'est totalement hors sol si Philippe Poutou la consulte avec les prix et referme son ordi en disant « Il marche plus le bordel ». Exemple de cadeau à offrir, un voyage dans l'espace. En fait, c'est une capsule qui frôle la stratosphère. Vous voyez la Terre en bas, c'est superbe. On arrive à distinguer la pollution au CO2 de la pollution en méthane. On dirait l'arc-en-ciel des bisounours, mais avec tout câlin et tout dodu en train de crever. Alors, coût 118 000 euros. Il y a aussi des voyages sur Terre, dont un petit déjeuner en Afrique au milieu des girafes. C'est-à-dire qu'elles sont en voie d'extinction et que les dernières survivantes à 9h du mat doivent se taper nous en train de bouffer des chocs à pic. Hein, déjà, quand notre gosse fait ça, on a envie de le vendre sur le bon coin. Alors, imposer ça à des girafes, c'est mal. Sinon, pour les gens qui ont peu de moyens, comme Arnaud Lagardère, je veux dire, par rapport aux potes de Gwyneth, hein, il y a le presse dentifrice. Alors, c'est un accessoire en laiton qui appuie sur le tube. Parce que chez les ultra-riches, utiliser ses mains est vulgaire. Pour gratter un banco, ils sont obligés de le faire par la pensée. Comptez 16 heures. Le presse dentifrice, 215 euros. Il y a aussi des allumettes faites à la main, 83 euros. Des feuilles à rouler en or à 55 euros. Donc rien que pour faire une clope et l'allumer, c'est 150 euros. C'est autre chose que le paquet à 20 balles. Hein, si on veut vraiment stopper la consommation de tabac, on demande à Gwyneth, elle vous pond le paquet en ivoire à 400, 1400 avec des filtres en diamant, et c'est plié. Donc là, les gueux, qui appuient eux-mêmes sur leur tube de dentifrice, les losers, ont commencé à lui dire « Gwyneth Choupinette, tu crois-t-il pas que ça fait un peu mal au huc, comme si on s'était assis sur un œuf de jade, qui il y a des gens qui crèvent de faim pendant que toi tu vends une brosse WC 700 dollars. » Elle a répondu « Je suis qui je suis, je ne vais pas faire semblant d'être quelqu'un qui ne gagne que 20 000 dollars par an. » Paf ! Dans vos dents les pauvres ! Enfin vos dents, ce qu'il en reste ! Or, c'est exactement ce qui a amené Trump au pouvoir, et Bolsonaro au Brésil, et Marine chez nous en 2022. L'explosion des inégalités. Obama pendant 8 ans, il frayait avec les riches et a papouillé Beyoncé en une de Vanity Fair, donc les familles déclassées lui ont dit « Ta gueule ! Nous, notre quotidien, c'est c'était les aides avec le kleps mort parce qu'on n'a plus de quoi lui acheter des croquettes. Aux USA, 1% de la population cumule 99% des richesses. Alors certes, quand on fait partie du 1%, bon, on est occupé, hein, il faut commander à Gwyneth du PQ en marbre. C'est froid au début, et puis après on s'habitue. Il faut se mettre des œufs de jade dans le vagin en se disant que les migrants mexicains ont l'air tellement vulgaires. On ne voit pas les 99% restants jusqu'à ce qu'on les voit, comme chez nous, et ça pète, et c'est trop tard.
Merci, bravo. La bande originale,
la vie. Tanguy Passuroy, retrouvé le 8 décembre à Bourges.
Que ce soit Tanguy ou Alexis Le Rossignol tout à l'heure avec le fruganisme, on parle de consommation beaucoup aujourd'hui et toute la semaine sur Inter, on s'est intéressé aux gestes pour la planète. Guillaume Gouix, qu'est-ce que vous faites vous au quotidien pour la planète?
Alors déjà, je me suis acheté une machine qui broie le café, j'ai arrêté les capsules. Je fais le tri.
Ça s'appelle un moulin donc.
Non, c'est-à-dire une vraie machine à expresso, mais qui où on met les grains de café dedans.
Avec un moule,
bois,
un moulin à café
voilà.
Intégré.
Quoi.
Intégré. Et, d'accord. Oui,
oui. Pour ça ne sera pas la déconsommation.
Voilà. Non, mais bon, pour
c'est
la planète en tout
non,
cas.
C'est
bon.
Vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Après, non, je fais le tri. J'essaye de faire au maximum, ouais. Le tri, de faire moins de déchets. J'essaye.
Et vous, Guillaume Niclou?
Je fais plus de lessive. Voilà. Ah bah je porte les mêmes vêtements. Non, surtout, je ne suis plus fumeur. Mais quand je fumais, je ne laissais jamais un mégot par terre.
Je prenais... c'est vrai que c'est une plaie de pollution
infernale. Ouais. Donc j'éteignais ma clope et puis je la mettais dans mon jean. Je fumais beaucoup, donc ça représentait beaucoup de papier, beaucoup de déchets.
Ah, ça voilà. Te fait sentir dans les poches.
Mais c'est très égoïste, hein, évidemment. Personne n'est obligé de fumer, mais c'est un geste.
Non, mais tous ces petits gestes-là cumulés, voilà. Évidemment, comptent et ont de l'importance pour la planète. Revenons aux confins du monde dans ce film avec Gaspard Ulliel qui sort donc survivant d'un charnier avec un souhait, celui de venger sa famille qu'il a vu être massacrée, dépecée, enfin des horreurs de la guerre. Il sait qui est le commanditaire de ce crime, il veut le retrouver à tout prix. Il est quand même né sous une bonne étoile parce que il sort survivant d'un charnier. Il est sauvé, recueilli par une famille vietnamienne qui va le soigner et le remettre d'aplomb. Ensuite, il réintègre un bataillon merci militaire où il va rencontrer Guillaume Wix et à nouveau là il est blessé et se retrouve avec des balles dans le corps. Il va s'en sortir aussi.
Je sais pas s'il est né sous une bonne étoile, parce que quand on est en 45,
il s'en sort chaque fois.
Que la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer et qu'on est en Indochine, je me dis, c'est quand même pas de bol d'être né à cette époque. Quoi.
Ouais, mais c'est pas ton quotidien d'avoir deux fois de frôler de la mort et de s'en sortir.
Oui, c'est ce que lui dit le personnage de Gérard Depardieu. C'est qu'à la fois, il est né sous une bonne étoile, à la fois, on a l'impression qu'il va traverser une série de... voilà, des périples assez ombrageux. Mais en même temps, c'est la question que le film pose aussi. Est-ce qu'il vaut mieux vivre sur une crête, dans l'intensité, une courte période, admettons 2 ans, ou est-ce qu'il vaut vivre dans une tiédeur absolue pendant 30 ans?
C'est l'histoire d'Achille.
Voilà, c'est un petit peu la question qu'on pourrait se poser. D'ailleurs, on n'est pas obligé de donner la même réponse tous les jours. Je crois qu'elle dépend aussi de l'état dans lequel on est.
C'est ça qui est bien.
Le fait que ce débat est compliqué. Quoi.
Et il y a le complexe du survivant aussi qui est évoqué par Gérard Depardieu dans le film.
Oui, parce qu'on n'est pas très loin du complexe de la lâcheté, c'est-à-dire le fait de ne pas être intervenu, de ne pas savoir choisir son camp, et en même temps, ne pas choisir, c'est un choix. C'est le choix de ne pas blâmer ni l'un ni l'autre et de rester en retrait, mais rester en retrait, c'est aussi un choix.
Et vous, votre personnage, Guillaume Wix, dans le film, paraît extrêmement... violent, macho, il y a l'opium aussi, par où on n'a pas beaucoup parlé, qui est très présent, les fumeries d'opium, il y a la prostitution, il y a ce fameux perroquet vert évoqué par le maréchal tout à l'heure, où les soldats vont rencontrer les prostituées, et où le personnage de Gaspard Ulliel tombe amoureux de Maï, si j'ai bonne mémoire. On croit justement, d'ailleurs, il pense que vous allez, vous aussi, dans un élan de jalousie pas le tromper, mais enfin... Profiter de cette femme, alors que vous partez dans les volutes d'opium vers un monde meilleur.
Bah oui, bah il faut s'oublier, quoi. Mais oui, il est un peu, on disait ça au début de l'émission, mais c'est un personnage un peu, qu'on croit un peu démonstratif, quoi. Voilà, qui s'impose, il s'est fait une moustache, il met des marcelles, et puis il se montre un peu plus fort qu'il est au fond de lui, et puis...
Un peu homophobe
voilà,
aussi.
Un peu homophobe, ouais, bah comme tout le monde, quoi, à cette époque-là. Non petit peu, bah, il se fait une carapace de viril provocateur, voilà. Mais en fait, heureusement, on a le temps au cinéma d'aller gratter un peu. Et là, quand on gratte, on voit que c'est beaucoup plus sensible que ça.
Et... Tout ça était un masque. Il jouait un jeu. Il va se dévoiler au fur et à mesure.
Ouais, bah c'est même pas pour jouer, c'est qu'il faut simplement survivre, quoi. Donc
voilà. Et on est en 45 et on est à la guerre avec des militaires. Donc
c'est pas l'endroit
idéal pour faire des confessions.
Oui, c'est ça. Et le film montre une espèce d'horreur permanente. C'est là où je trouve le film assez magnifique. Moi, c'est comme des coulisses de la guerre, quoi. La guerre sans action, c'est-à-dire il y a l'horreur dans la drogue, c'est ça, dans la prostitution. Il y a les masturbations dans les chambrées la nuit. Tout ça, en fait, crée un climat qui est un peu cauchemardesque pour eux. Et le film s'attarde là-dessus. Et là-dedans, il faut survivre.
Vous êtes posé la question, Guillaume Nicolou, de ce qu'il fallait montrer ou pas montrer. Que vous tourniez des scènes, c'est une chose. Et après, quand on est au montage et qu'on sort de l'histoire, il y a toujours, non pas la censure, mais l'auto-censure en se disant non, ce plan-là, je l'enlève. Ou au contraire, je le laisse et je le laisse plus longtemps que prévu.
Oui, bien sûr. C'est ce qui rend vraiment ces deux portions, les deux portions d'un film, c'est-à-dire le tournage et le montage, totalement déconnecté. C'est-à-dire que pour moi, le tournage, c'est le ventre, et puis le montage, c'est la tête. Donc là, on s'organise, et là, on rationalise, et là, on fait des choix. Et là, on peut, en effet, se dire, bah voilà, à quel moment je décide de montrer ce plan, qui peut être assez brutal, qui peut être très impactant, mais c'est toujours dans cette obligation de suivre ce qu'on fabrique dans le regard du personnage. C'est pour ça que le film démarre de cette façon. C'est une façon d'entrer lentement, mais d'une façon un peu hypnotique dans ce qu'on va voir, découvrir au travers du regard du personnage.
Ça s'appelle Les Confins du Monde et ça sera au cinéma mercredi prochain. Voici Frédéric Sigrix pour le bilan de la semaine.
Eh oui Nagui, voici mon moment préféré de l'émission, celui où je suis payé pour parler. Eh oui, c'est comme ça que ça marche à la radio, celui qui parle, c'est celui qui est payé. Et je rappelle que Nagui, vous êtes celui qui parle le plus autour de cette table. Alors l'événement marquant de cette semaine, c'était bien évidemment cette question qui a été posée à de nombreux invités sur toute la grille de France Inter. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour la planète ? Oui, parce que c'est un peu notre créneau à nous, France Inter, hein, l'inquisition à la sauce environnementale, Pierre Rabhi qui aurait fait le djihad, hein, question à laquelle l'ancien président François Hollande a lui-même répondu.
Je ne supportais pas comme président que l'Élysée reste allumée, que des bureaux restent allumés la nuit. Alors peut-être certains voulaient montrer qu'ils travaillaient la nuit et donc laisser la lumière. Moi je considérais, je faisais moi-même le tour pour éteindre la lumière au niveau de mon étage.
Il rejoint Joey Starr.
Ben oui, in your face, la pollution. C'est qui le patron, hein? En laissant d'ici hein, les sous-vêtements souillés par la peur des grands pollueurs, François Hollande, il résiste au réchauffement climatique avec l'énergie d'un Jean-Luc Lahaye dans une sortie scolaire. Oh. Le mec, non mais quand même, le mec était président de la 7e puissance mondiale. Et il a pas fait plus pour la planète que ma grand-mère quand elle éteignait derrière moi en gueulant comme Joey Starr. Hey, c'est pas Versailles ici! Non mais quand même, moi président, on me demande ce que j'ai fait pour la planète, j'espère pouvoir répondre. J'ai lutté au niveau mondial contre le lobby des pesticides, j'ai fait interdire les OGM, j'ai fait subventionner de manière plus importante les circuits courts et j'ai financé la recherche d'un moteur qui marche au pipi. Je dis pas, j'ai éteint les lampes moi-même, mais c'est naze! C'est naze! C'est comme si on me demandait comment j'ai fait pour élever mes enfants et que je répondais, j'ai joui dans ma femme, le reste c'est elle qui a géré. Ça se fait pas! Tu dis pas ça! Parce qu'à ce moment-là, si éteint les lumières, c'est ça être au taquet de l'écologie, mais ma mère, elle peut devenir tête de lit chez Europe Écologie Les Verts. Hein. J'ai une voisine qui éteint ses radiateurs quand elle ouvre ses fenêtres, mais donnez-lui immédiatement le ministère de l'écologie. Tu m'étonnes qu'ils comptent sur les automobilistes pour sauver le monde. C'est pas comme s'ils avaient pris beaucoup d'avance au sommet de l'État. Hein. Et c'est vrai parce que ce qu'ils appellent l'écologie, moi, ça me rappelle vachement la pauvreté, en fait. Si ça se trouve, Hollande, il est convaincu d'avoir sauvé le monde, mais de l'Élysée. Et au niveau géopolitique, monsieur Hollande, vous avez fait quoi pour enrayer le conflit israélo-palestinien ?
J'ai boycotté les falafels. Julie voulait m'en dissuader, mais j'étais du bon.
Et pour les femmes, monsieur Hollande, qu'avez-vous fait pour faire avancer la cause des femmes ?
Je leur ai inspiré des livres. Valérie a écrit un livre sur bois, Ségolène a écrit un livre sur bois, et Julie ne le sait pas encore, mais elle va pas tarder à avoir de l'aspiration.
On s'en rendait pas compte, mais François Hollande, sous la pluie, sans parapluie, c'était pas que de la com. C'était de la maîtrise des dépenses publiques. À l'Élysée, il tirait la chasse qu'une fois par jour pour qu'ils aient de l'eau au Sahel. Et dire que cet homme, il veut revenir. Il l'a dit, hein. I'll be back. Comme Terminator. On n'était pas guéri de François Hollande, on était en rémission. C'est pas un politicien, c'est une métastase. Et en même temps, c'est quoi cette question qu'on a posée toute la semaine ? Qu'est-ce que vous faites pour la planète ? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir ce qu'une star fait pour la planète ? Leonardo DiCaprio et Matt Damon, ils ont beau être parrain et marraine d'une famille d'ours polaires, en deux films tournés à l'autre bout du monde, ils ont le bilan carbone de l'Exxon Valdez. 60% des espèces animales ont disparu de la surface du globe. On a un continent de plastique dans l'océan. L'être humain a de plus en plus de problèmes de fertilité à cause des perturbateurs endocriniens. Est-ce que c'est si important de savoir si Jean-Paul Roux ferme le robinet quand il se lave les dents ? À la question « qu'est-ce que vous faites pour la planète ?», il n'y a qu'une seule réponse valable. Bah, sûrement pas assez, et c'est déjà trop tard.
Merci. France Inter, la bande
originale, avec Nagui. Fred Sigrix en spectacle, 14 et 15 décembre, à Dijon, au théâtre de la Fontaine d'Ouche.
Il est énervé.
C'est à 20h, voilà.
Mais éteins la lumière en sortant, c'est gentil.
Mais je le fais, mais comme il y a plein de gens, tout le monde le fait.
Ouais. Mais ça compte, ça compte. Mais il y en a plein qui ne le font pas, puisque, puisque tu es obligé de passer derrière pour éteindre.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi. Là, je rajoute un truc à la chronique.
Vas-y.
Il faut aussi attaquer les gros payeurs, les industriels. Il arrive un moment, il faut aussi avoir du courage politique. Et ça, on en manque un petit peu.
On a compris, et on est d'accord.
Tiens, bois de l'eau en bouteille.
Non, j'ai pas envie.
Vous confirmez ce que vous nous avez donné comme scoop tout à l'heure, Guillaume Niclou, la préparation de votre prochain film, c'est Extra, c'est le titre ?
Oui.
C'est ça ?
Oui.
Ça parlera de quoi ?
C'est la rencontre entre Gérard et Michel, Gérard Depardieu et Michel Houellebecq, dans un lieu assez, assez emblématique, mais ça par contre je ne peux pas le dévoiler.
Non, ouais. Ça sera où ?
En Normandie. Mais c'est pas avec le... Il n'y a pas d'histoire de débarquement, de guerre et tout ça. Hein. Voilà.
Et c'est deux personnages ?
Un corsaire, surcouf.
Non, pas tout à fait.
Le festival de Deauville.
Non.
Il y a un lien avec le cheval.
Non.
Madame
non,
Bovary.
Je ne lâcherai rien.
La crème fraîche.
Et ce sera des personnages où Gérard ce et Michel
eux.
Qui se rencontrent.
Oui, ce sont eux et les personnages de l'enlèvement de Michel Houellebecq qui reviennent aussi parce qu'il y a de gros soucis. On a de gros soucis avec la famille.
D'accord.
Le 27 février, vous serez à l'affiche de Celle que vous croyez, c'est ça, Guillaume
Wix ?
Vous y faites quel personnage ?
C'est une apparition, je fais l'amant de Juliette Binoche. Ce qui est pas mal comme
apparition. Ouais, c'est un bon pitch.
Et avant ça, le 6 février, dans un film qui s'appelle Les drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni.
Et Les footeuses également arrivent, un film de Mohamed Hamidi, avec Admirad, Céline Salette que vous allez retrouver, Alban Ivanov. Ça sent le bon casting, ça, pour une histoire.
Bah voilà, j'aime la comédie, vous voyez.
Non, j'ai pas encore vu le film, donc
ça
sent la comédie. Oui.
Ouais, c'est un film populaire, il me fait penser à Coup de tête et tout ça. Voilà,
on va préciser que Mohamed Hamidi a travaillé à Canal au Guignol, l'un des auteurs des Guignols, belle époque.
Qui met en scène Jamel Debbouze aussi.
Absolument, et qui a co-participé au scénario du Grand Bain, qui est un succès.
Ah, d'accord, de Gilles Lelouch. Ouais. Bah voilà. Mais bah oui, c'est un film. Comédie sociale populaire sur dans une petite ville de France, la fierté de la ville repose sur l'équipe de foot amateur des hommes, et à cause d'une bagarre générale ils se font tous expulser, et donc le moral de la ville va tomber parce qu'ils peuvent plus finir le championnat, et du coup les femmes des joueurs les remplacent et finissent le championnat à leur place.
Et le 5 décembre, donc, Les confins du monde au cinéma, le nouveau film de Guillaume Niclou. Des excuses à présenter ?
Bien évidemment, désolé pour tout. Les lascars, les gangsters, les brigands, les voyous, les méchants, les mafieux, qui ont pris une claque en découvrant le déglingo qui est Guillaume Bouix, le braqueur de Sucette Mickey. Waouh, t'as tué le game, mec ! Désolé pour tous les losers magnifiques, les plaqués sublimes, les exclus de l'amour, les rois de la veste qui ont pris une claque en découvrant qu'il y avait un super loser, Guillaume Gouix, qui s'est fait jeter par son ex, qui a préféré son meilleur copain après qu'il les ait filmés et emmenés à Cannes. Guillaume, t'as tué le game ! Respect ! Désolé enfin pour Guillaume Niclou, qui a essayé de parler intelligemment de son rapport à la musique, au cinéma, et qui s'est retrouvé à devoir fuir les avances de mademoiselle Laetitia La Chaudière, Cadour, Bonadi, Leïla, Guillaume, filet, je la retiens. T'as tué le game de l'amour, saleté. Là.
Je connais pas de Laetitia.
Non, c'est Leïla.
Ouais, ça tombe bien.
Faut que je la présente.
C'est vrai ?
Ah,
c'est vous ?
T'as dit Laetitia.
T'as dit Laetitia.
Ouais, Laetitia. Mais ça va, ça me va.
C'est un hommage à Laetitia Gaillé. Ouais, c'est ça. Merci mille fois, en tout cas, les garçons, d'être venus à ce micro.
Merci à vous.
Guillaume,
plaisir, merci beaucoup.
Guillaume Niclou, merci. Le 5 décembre, donc, au cinéma, Les confins du monde, merci. Alexis, Frédéric, Albert, Daniel, Tanguy. Et comme Leïla le dit souvent, je vous demande de nous écouter lundi avec Fanny Ardant et Vianney, qui seront nos invités pour parler du nouveau film de Diane Curis. Bonne journée avec les carnets de campagne de Philippe Berton. Bon week-end. Et vous les femmes, à 17h dimanche.